Tout va bien. Mangeons Déborah Ohana sur Nutri Radio.
Bonjour Déborah, comment ça va cette semaine ?
Bonjour Virginie, ça va plutôt bien malgré un petit rhume qui a du mal à partir, ça va bien.
Ah, c'est un peu dans l'air du temps en ce moment, hein. C'est vrai qu'avec les changements, on ne sait pas trop, c'est toujours un petit peu compliqué. Plus la Covid qui revient. Bon, en tout cas, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous parce que grâce à vous, on en apprend toujours un petit peu plus sur notre alimentation et sur les bonnes pratiques alimentaires. Alors cette semaine, vous allez nous parler de l'alimentation intuitive et notamment de ses limites. Alors tout d'abord, une première question. Déborah, qu'entend-on par alimentation intuitive ?
En fait, l'alimentation intuitive, c'est un peu un concept, effectivement, dans lequel j'aimerais vous parler aujourd'hui, parce que c'est de plus en plus populaire, surtout ces dernières années. Ça prône, en fait, une approche beaucoup plus consciente et naturelle de l'alimentation. Et c'est d'ailleurs une approche dont je m'inspire également en consultation, hein, d'ailleurs. Enfin, c'est-à-dire que j'utilise une partie de l'alimentation intuitive. Ça encourage les individus à écouter leur propre corps pour déterminer en fait leurs vrais besoins, leurs besoins alimentaires.
Un petit peu comme les animaux finalement, c'est ça, hein. On mange quand on a envie, c'est un petit peu ça.
Bien sûr, les animaux et puis les enfants, quand nous sommes nourrissons, bah les nourrissons en fait ils se posent pas de questions, ils mangent quand ils ont faim. Enfin, c'est leur corps qui guide leur rythme un peu alimentaire. Mmh. Mais après, malgré les certains avantages que l'alimentation intuitive peut comporter, il y a quand même des limites qui, à mon sens, sont quand même à considérer. Et j'aimerais tout simplement aujourd'hui qu'on apporte quelques clarifications justement sur ces limites.
C'est une belle approche au départ de se dire, bah, tiens, c'est conscient, c'est naturel, on fait comme on a envie, un peu comme à la va comme je te pousse, on va dire. mais est-ce que c'est bien quand même de rappeler aussi un petit peu ces principes de l'alimentation intuitive ? Quels sont-ils ?
Oui, bien sûr. Alors, l'alimentation intuitive repose sur plusieurs principes clés, notamment, comme je viens de vous le dire, l'écoute des signaux corporels, notamment la faim et le rassasiement. Ça repose aussi sur le grand principe qu'il n'y a pas de restriction, donc il y a vraiment une permission totale de manger tous les aliments sans culpabilité et l'introduction de la pleine conscience en mangeant. Et donc, ces principes visent vraiment à aider les personnes à établir une relation beaucoup plus saine et apaisée avec la nourriture, tout en prévenant des désastres des régimes restrictifs et à promouvoir une alimentation intuitive basée en fait sur les besoins réels des individus. Donc en réalité, le principe de base, il est quand même plutôt favorable. Et en même temps, certains points me semblent vraiment dérangeants.
Alors, on va aller voir justement. C'est vrai que quand vous disiez ça a établi une relation plus saine et plus apaisée avec la nourriture, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, on a quand même des composants dans la nourriture qui sont très différents de ceux d'une certaine époque. On se nourrissait quand même différemment. Il n'y avait pas de plats préparés, il n'y avait pas de junk food, de choses comme ça, non ?
Et oui, bien sûr, en fait, de nos jours, il y a de plus en plus d'aliments ultra transformés ou transformés tout simplement. Et avant, c'était beaucoup plus une alimentation plus raisonnée, plus brute. Et c'est vrai que de nos jours, on a une multitude de choix et c'est pas évident. Mais justement, c'est vraiment une affaire marketing, ça. Et donc, c'est en soi aussi où l'alimentation intuitive peut avoir des difficultés. Et on va le voir, hein.
C'est un phénomène de mode, ça, un peu aussi, non ?
L'alimentation intuitive ?
Oui.
Bah, c'est un concept, en fait, qui a émergé, je crois, il y a une dizaine d'années. Et je ne pense pas que ce soit un phénomène de mode. Je pense que c'est un rappel de nos besoins primaires. Après, il y a certains professionnels qui l'utilisent un peu comme si c'était le nouveau mood pour perdre du poids. Mmh. Et là, ça pose vraiment une difficulté.
Ah oui.
Mais c'est un penchant, en fait, de l'alimentation et des approches que vous pouvez retrouver dans l'alimentation de manière générale. Et je ne pense pas que ce soit un phénomène de mode. Par contre, on en parle de plus en plus parce que ça a quand même... des bases plutôt cool, quoi.
Oui, c'est vrai, je disais de phénomène de mode parce qu'on a tendance à remettre un peu en avant des choses naturelles, à prôner des choses un peu naturelles. Donc c'est peut-être pour ça que d'un seul coup, dans l'air du temps, on reviendrait à des fondamentaux peut-être, je sais pas, en tout cas des choses qui nous parleraient peut-être plus.
Mais oui, c'est exactement ça.
et ça peut avoir des limites, donc.
Oui, alors, nous allons les voir.
Voilà, alors on va en parler dans quelques instants de ces limites. Juste avant, on va faire une toute petite pause. Et si vous souhaitez réagir donc, sur cette émission ou poser vos questions tout au long à Déborah, donc n'hésitez pas, évidemment, vous avez à votre disposition le numéro de téléphone qui est le 06 66 94 59 02, ainsi que la page de contact du site nutriradio.fr.
Tout va bien. Mangeons Déborah Ohana sur Nutri Radio.
Vous êtes sur Nutri Radio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit. Si vous nous rejoignez, nous sommes avec Déborah et nous parlons actuellement de l'alimentation intuitive. Déborah, nous avons vu avec vous les principes de cette alimentation, mais quelles sont ses limites, s'il y en a ?
Alors oui, il y en a quelques-unes quand même, et c'est l'objet de cette émission aujourd'hui, de ce sujet. Tout d'abord, la première limite que moi je vois, c'est l'intuition. Parce que effectivement, l'alimentation intuitive, comme son nom l'indique, repose sur les principes de l'intuition, pour le coup corporelle. Cependant, cette intuition, l'intuition de manière générale, se base sur ce que nous avons appris dans notre fonctionnement, du coup, dans notre enfance. De ce fait, si par exemple une personne n'a pas appris dans sa diversification alimentaire dans l'enfance à consommer que des fast-food, par exemple, si elle a appris à consommer que des aliments fast-food ou a connu une alimentation très peu diversifiée, eh bien alors, cette personne va naturellement, intuitivement, se diriger vers ce qu'elle a appris, et donc vers que des fast-food ou des aliments exclusivement industriels. Et donc, avoir une alimentation sans doute très peu diversifiée, pouvant impacter ainsi très certainement sa santé à moyen et long terme. Et donc, pour certaines personnes, cela peut même entraîner une alimentation complètement chaotique et déséquilibrée, car elles peuvent avoir du mal à déterminer quand et quoi manger sans aucune guidance. C'est-à-dire que vraiment, l'intuition, c'est, ça part de l'acquis. Donc,
Là, j'ai une question alors, Déborah. Je lève le doigt.
Ouais.
Ça veut dire qu'en fait, il faudrait déjà, dès le départ, avoir eu une éducation alimentaire, soit de par ses parents, soit de par un autre moyen, pour se dire, voilà ce que je suis censée manger dans ma vie sainement pour m'apporter tous les oligo-éléments, tous les minéraux, etc.
C'est-à-dire que si on se base uniquement sur de l'alimentation intuitive, j'entends bien le « uniquement » dessus, effectivement, si on n'a pas appris à avoir une diversité alimentaire dans son enfance, parce que l'enfance est quand même une étape assez importante dans l'équilibre alimentaire, dans la relation à l'alimentation. Mmh. Mais effectivement, si on n'a pas appris à faire ça, et qu'il y avait très peu de fruits, très peu de légumes, que des aliments déjà tout fait, pas de cuisine, etc., et ben, intuitivement, c'est vers ça que notre corps va nous amener. Mmh. Et donc, si on utilise exclusivement l'alimentation intuitive, sans travailler tout ce qu'il y a autour, et ben, la personne va intuitivement se diriger vers ça. Effectivement, donc, l'importance de l'éducation alimentaire dès le plus jeune âge est indispensable, que ce soit dans les choix alimentaires, que dans le comportement face à l'alimentation. Hein.
Oui.
L'enfant, c'est une étape, j'ai envie de dire, la plus importante. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je songe de plus en plus à écrire un livre sur le sujet. Parce que, à mon sens, c'est vraiment la clé. C'est le démarrage de la vie alimentaire.
Oui, super, ça, c'est bien. Vous nous direz quand il sortira. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est important, d'autant plus que les enfants, quand on est parents, peut-être qu'il y a, aussi des parents qui, quand un enfant n'aime pas tout de suite certains produits, par exemple, on va peut-être pas forcément avoir envie de manger des asperges ou bien du chou-fleur ou je sais pas quoi, alors qu'en fin de compte, il y a des choses qui seraient essentielles dedans et qu'on peut apprendre à manger plus tard. C'est vrai qu'il faut se forcer un tout petit peu, des fois, quand on est petit quand même, et quand on est parent, c'est pas évident.
Et oui, bien sûr. Alors après, ça pourrait même faire l'objet d'un autre sujet d'émission. Hein. Il y a des petites techniques à mettre en place, il y a des façons de s'y prendre, il y a des façons de faire, parce que faut absolument pas forcer un enfant à manger quelque chose. Mmh. Ça, c'est le meilleur moyen de le dégoûter de son aliment, et vous allez avoir une sorte de rébellion qui va se mettre en place par opposition. Donc, il y a des façons de faire passer l'aliment. Donc, effectivement, c'est pas non plus, l'idée, c'est pas non plus de tout de suite dire, ok, je te fais autre chose, mais il y a des façons de faire.
Mmh, bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a d'autres limites également ?
Oui, bien sûr. Alors, bien évidemment, le facteur émotionnel, parce que l'alimentation intuitive, à mon sens, ne tient pas suffisamment compte des facteurs émotionnels qui peuvent influer nos choix alimentaires. Par exemple, en cas de difficulté à accueillir nos émotions désagréables, difficiles, si nous ne l'avons pas appris, eh ben, nous pouvons tomber dans ce qu'on appelle de l'alimentation émotionnelle. Et c'est le cas de bon nombre de mes patients qui viennent me consulter et qui ont un rapport perturbé avec leur alimentation. Et donc ça peut entraîner notamment des problèmes de poids, des problèmes de santé et surtout mener à une perturbation alimentaire et relationnelle très compliquée.
C'est ça qu'on appelle l'alimentation pansement, en fait, des fois.
Oui, ça peut être un peu ça. Oui, il y a plusieurs façons de le dire, mais dans le jargon nutritionnel, on appelle ça de l'alimentation émotionnelle, en fait. C'est de la fuite émotionnelle. Et ça, dire à une personne qui a cette difficulté, viens, moi, je travaille sur l'alimentation intuitive, écoute ton corps, écoute juste ton corps et tout le reste, on travaille pas, en fait, ça a quand même des limites. C'est écouter son corps dans ces moments-là, quand le corps est envahi d'émotions, c'est difficile de percevoir de quoi le corps a besoin à ce moment-là, qu'est-ce qui est important à mettre en place, quelle action, etc. Quand on est dans une vague émotionnelle, on est dénué de réflexion, on ne peut pas réfléchir. Et donc, si on se base exclusivement sur l'alimentation intuitive, encore une fois, ça a une limite, à mon sens, par rapport à ça.
C'est un modèle de compensation, finalement. On est perturbé, on est gêné, on est stressé, on est fatigué, on n'est pas bien, et on compense avec ces aliments qui peuvent potentiellement pas être très très bons, d'ailleurs, parce qu'on se porte pas toujours vers des haricots verts quand ça va pas bien.
Oui, mais après même si c'était des haricots verts, la difficulté dans ce comportement d'alimentation émotionnelle, c'est pas ce que vous allez manger. La difficulté, c'est de répondre ou de fuir une émotion dans l'alimentation. Donc en fait, que vous mangez un Mars ou une pomme, la difficulté, c'est pas ce que vous mangez dans cette situation précisément. C'est vraiment le fait de répondre à une émotion désagréable par l'alimentation. C'est pas le rôle, en fait. C'est pas ce que l'émotion est venue vous dire. Et donc ça a des effets aussi bien sur la santé que sur la relation à soi, que sur la relation à l'alimentation. En fait, ça, c'est un peu une difficulté comportementale qu'on retrouve, mais je dirais à 90% avec les personnes qui ont des relations perturbées à l'alimentation.
Oui. D'ailleurs, ça voudrait peut-être dire aussi que lorsqu'on mange quelque chose, c'est une question mais que je me pose, parce que si on mange quelque chose, un aliment qui serait un peu cet aliment donc émotionnel, si on le mange en pensant peut-être combler quelque chose, dans le corps lui-même, peut-être que cet aliment n'est pas digéré peut-être de la même manière.
En général, la digestion va être impactée parce que dans ces moments-là, on va manger des aliments en excès. Et effectivement, la digestion va être un peu impactée, ça va être plus lent. Et puis aussi, c'est important, c'est que quand on est dans un mood un peu stressé, stressant, effectivement, corporellement, on sollicite le système nerveux sympathique, qui est le système nerveux un peu noué du stress, de l'anxiété, etc. Et effectivement, ça crée des espèces de tensions corporelles qui permet pas d'assimiler de manière optimale tous les aliments. Et donc, tout le travail, ça va être de changer de système nerveux et de passer sur le système nerveux qu'on appelle parasympathique, qui est le système nerveux qui est, lui, activé quand on est bien, quand on fait des activités qui nous plaisent, quand on est heureux, tout simplement. Et donc, effectivement, ça détend les muscles intestinaux et ça permet d'assimiler l'alimentation d'une meilleure, de façon optimale et impacte la digestion de ce fait.
D'accord. Alors, donc, nous avons vu l'intuition, le facteur émotionnel. Qu'y a-t-il d'autre éventuellement, Déborah ?
Eh bien, moi, j'aimerais bien rebondir sur la culpabilité parce que l'idée de l'alimentation intuitive, c'est de ne pas culpabiliser, vous avez dû entendre ça, il faut surtout pas culpabiliser, il faut arrêter de culpabiliser. Moi, personnellement, ça m'énerve vraiment quand j'entends ça, parce que la culpabilité est vue très souvent comme quelque chose de négatif. Alors, effectivement, puisque c'est pas agréable de ressentir la culpabilité, mais ça me dérange beaucoup parce que quand la culpabilité se présente dans une situation, ça a bel et bien une fonction, celle de poser une limite, de nous remettre en question intention, en fait, de nous orienter ou nous réorienter vers de meilleurs choix. La personne qui mange que des fast-foods tous les jours et qui ne culpabilise jamais, elle va jamais se remettre en question pour peut-être ramener un peu plus de fruits. Mm-hmm. Donc, la culpabilité, elle est importante. Ce qui pose problème, en général, dans les difficultés de relation à l'alimentaire, c'est que cette culpabilité, elle est envenimée par un fonctionnement qu'on appelle un peu en mode survie. C'est-à-dire qu'on est en mode résolution de problème, on est un peu en mode panique, quoi. Et dans ce fonctionnement, l'objectivité d'une situation n'est plus possible. Donc, on envenime, on n'a pas d'objectivité sur ce qui est en train de se passer. Et de ce fait, c'est difficile de mettre en place un comportement adapté et favorable. Donc, l'idée, c'est de travailler, en fait, notre façon de relativiser face à une situation et non pas de faire disparaître la culpabilité. Et en relativisant, en fait, face à cette situation, la culpabilité va être moins difficile à vivre, elle va être beaucoup plus light, beaucoup plus basse. Et donc, ça va être beaucoup plus facile de prendre conscience, de prendre du recul sur ce qui se passe et d'avoir de l'objectivité pour agir en fonction.
Alors, si vous le voulez bien, Déborah, nous allons marquer une petite pause. Nous reviendrons dans quelques instants pour noter les autres limites de cette alimentation intuitive, parce que malheureusement, il y en a encore. Donc, on se voit tout de suite.
Tout va bien. Mangeons, Déborah Ohana sur Nutri Radio.
De retour avec vous, Déborah, nous parlons d'alimentation intuitive et vous nous avez évoqué certaines limites à cette alimentation, telles que l'intuition, justement, le facteur émotionnel ou bien encore la culpabilité. Y a-t-il d'autres limites à cette alimentation ?
Oui, il y en a encore deux, à mon sens. Peut-être d'autres, mais en tout cas, moi, j'en ai relevé encore deux. C'est qu'en fait, il y a besoin d'un apprentissage. C'est-à-dire que pour réussir une alimentation intuitive, il faut déjà apprendre à reconnaître tout simplement nos signaux de faim et de rassasiement de son propre corps. Cela peut prendre du temps et de la pratique, et certaines personnes peuvent avoir tout simplement du mal à développer cette sensibilité, surtout si elles sont totalement perdues de la connexion avec les perceptions de leur corps. J'ai déjà reçu des patients, par exemple, pour qui, souvent pour des raisons souvent psychologiques, avaient fait une séparation nette avec leur corps et qui inconsciemment occultaient complètement toute perception corporelle. Et donc, si on n'a pas appris ou on réapprend pas à détecter la moindre perception corporelle de notre corps et qu'on se dit viens, moi je vais t'aider avec l'alimentation intuitive, ça risque de bugger, en fait ça ne matche pas, c'est pas adapté.
Ouais, mais c'est facile ça d'apprendre comme ça ces signaux, comment on peut les déterminer,
les signaux de faim et de rassasiement?
Oui,
il suffit de les écouter, mais si une personne, elle est coupée de son corps pour X raisons, par exemple, il peut y avoir des personnes qui ont eu des chocs émotionnels ou qui ont subi des violences corporelles ou des viols ou des choses comme ça, et qui, pour se protéger, ont cloisonné complètement leur corps. Et donc, ça va être difficile pour ces personnes de porter attention à la faim, au rassasiement, parce qu'elles ont perdu l'habitude de se reconnecter à leurs sensations pour se protéger. Une personne qui n'a pas de trauma éventuel ou qui a juste un dérèglement au niveau du rythme alimentaire, on va lui dire, écoute, demain, tu ne manges pas jusqu'à temps que tu n'as pas faim. Cette personne, elle va techniquement réussir à reconnaître ces signaux-là. Mais une personne qui est complètement coupée de son corps, ça va être impensable pour elle. Et donc, il y a besoin au préalable d'avoir quand même un petit temps pour se reconnecter avec ses perceptions corporelles. Et par exemple, les petits tips que je pourrais apporter dans ces moments-là, c'est déjà de repérer les sensations que ça peut faire dans le corps, dans des petites actions quotidiennes, comme le fait d'aller sous la douche, de reconnaître l'eau chaude sur la douche, que ça fait dans le corps. C'est une façon de se reconnecter progressivement avec ce que notre corps peut nous apporter.
D'accord.
Et donc, c'est pas adapté à tout le monde, en fait, cette alimentation intuitive.
Mmh, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire que ça peut pas convenir à tout le monde, en particulier, par exemple, à ceux qui ont des besoins nutritionnels spécifiques, comme des allergies alimentaires ou des conditions médicales telles que de l'anorexie par exemple, ou des personnes qui sont en pleine chimiothérapie, des personnes qui sont vraiment malades, quand le corps en fait ne répond plus, l'alimentation intuitive ne peut pas aider. Dans de tels cas, une approche par exemple beaucoup plus structurée et contrôlée est souvent nécessaire, puisque quand le corps est malade, on ne peut pas détecter des signaux corporels, ils dysfonctionnent. Donc en plus de nécessiter un apprentissage de perception corporelle, eh ben, en fait, il y a besoin de quand même restructurer, de redonner du rythme au corps. Et pareil, de même, dans le cas de la pathologie de l'obésité, parce que c'est une vraie maladie, l'obésité, les régulations des hormones à l'origine des signaux de la faim et du rassasiement sont complètement déréglées. Dans ce cas, l'alimentation intuitive peut poser un blocage. Ou encore, alors je peux vous donner encore plein d'exemples, mais pour finir sur l'exemple de l'alexithymie, qui est une maladie en fait, où les personnes sont complètement coupées, incapables de faire des connexions avec leurs émotions ou avec leur perception corporelle, l'alimentation intuitive ne va pas aider, ne va pas aller.
Du coup, qu'est-ce qu'on doit retenir finalement sur cette alimentation intuitive, Déborah ?
Bah, en fait, si on devait en conclure un peu quelque chose, je dirais personnellement que l'alimentation intuitive est une approche de base très intéressante que j'utilise hein, vraiment moi-même, mais lorsqu'elle est exclusive, c'est-à-dire quand vous ne travaillez pas les autres aspects autour, bah, ça peut en fait comporter des limites, beaucoup de limites, notamment en ce qui concerne la structure, la gestion des émotions, l'adaptabilité en diverses situations, etc. De travailler en fait l'autonomie sur les différents contextes. Donc, il faut vraiment rappeler que chaque personne est vraiment différente et ne peut donc pas appliquer une approche rigide, donc exclusive, qui ne lui conviendrait pas, mais plutôt choisir une approche alimentaire qui convient le mieux à ses besoins, aux besoins de chaque individu, en tenant compte de chaque limite et en recherchant l'équilibre entre l'intuition alimentaire, justement, et la nécessité de respecter des principes nutritionnels et de santé spécifiques. Donc vraiment, le travail holistique qui tend à travailler sur le comportement alimentaire tout en incluant l'alimentation intuitive est, de mon point de vue, beaucoup plus pertinent que de se dire bah, « moi, je fais que de l'alimentation intuitive ». Parce que les personnes qui travaillent exclusivement sur l'alimentation intuitive ont tendance à promulguer le fait que ça marche pour tout le monde, c'est OK, tout le monde peut le faire. En fait, c'est faux, ça n'est pas vrai. Il faut vraiment avoir plusieurs outils, plusieurs axes à son actif pour pouvoir travailler. Et c'est vraiment, en tout cas, ce que j'ai appris au fur et à mesure de mes expériences de consultation. Et c'est ce que j'essaye de faire le plus possible en consultation, en tout cas.
Très bien. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est toujours bien, évidemment, de se faire accompagner, de savoir comment on fonctionne, hein, parce qu'on ne sait pas toujours forcément bien comment on fonctionne, et surtout d'avoir un accompagnement, comme vous le disiez, notamment surtout d'un point de vue nutritionnel. Merci beaucoup, Déborah. L'émission se termine, malheureusement.
Avec plaisir.
Et nous allons se retrouve bientôt. Voilà. Oui, c'est ça. On va avoir de toute façon le plaisir de vous entendre la semaine prochaine sur un nouveau sujet, tout aussi intéressant que celui-ci d'ailleurs, et qui concerne bien sur nos pratiques alimentaires ou l'alimentation en général, toujours avec évidemment vos précieux conseils. Si vous avez le souhait de réécouter cette émission, eh bien vous pouvez sur le site nutriradio.fr et sachez qu'elle sera diffusée dans son intégralité dimanche à 18h sur nutriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. Déborah, donc, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, merci beaucoup.
Très bonne semaine à vous.
Tout va bien. Mangeons Déborah Ohana sur Nutri Radio.